Bonjour. Pour la dernière rencontre de ces jeunes lyriques, deuxième édition, il est une évidence de rendre hommage au major Tom Rasworth et à sa parole, donc à l'imaginaire à qui nous devons tous ici notre liberté. À Jordal, Eric Lom et Mia Smartfield, ainsi que la directrice artistique du festival, Frédéric Malvesin, ont tenu à honorer ce grand défenseur de la littérature de genre en partageant avec nous ces derniers moments avant le retour vers le réel. Alors, la première question est pour vous tous, donc je vais vous demander de vous passer le micro à l'un puis à l'autre. Y a-t-il des limites à l'imaginaire ?
Waouh !
Non, il est mort.
Ah bah attends, on va peut-être trouver un truc.
Il y a peut-être la tête.
Oui. Ah, tu fais mieux toi.
Oui, je confirme, il y a des limites à l'imaginaire. Et il serait temps d'ailleurs qu'on les encadre et qu'on verbalise. Il y a celles que nous sommes capables de nous mettre tout seuls comme des grands. C'est-à-dire à un moment donné de s'arrêter, de partir dans des rêves éveillés et éventuellement d'envisager le monde autrement que ce qu'il peut être nous au quotidien. Ce sont les limites que nous nous mettons. Et l'avantage extraordinaire de dire ça quand on est auteur, c'est que la littérature, comme un certain nombre d'autres expressions artistiques, permettent à un petit peu, même à un très haut degré, de réouvrir ces portes qui se sont fermées. Qui nous ont été fermés souvent à une période qu'on appellera scolaire et petit à petit il faut regagner. Voilà.
Oui, non, je ne crois pas qu'il y ait d'autres limites que celles qu'on s'impose, parce que forcément, quel que soit le genre dans lequel on écrit, les limites vont être d'abord celles de notre propre imagination. C'est pas parce qu'on est dans le domaine de l'imaginaire qu'on peut avoir une imagination absolument débridée. Bon, en fait, je crois pas qu'il y ait de véritables limites non plus, parce que le mot en lui-même, l'imaginaire, l'imagination, moi, il me semble que c'est un monde infini. On peut partir. C'est pour ça que je crois que c'est nous-mêmes qui nous posons des limites. On aura peut-être l'occasion d'en reparler, il n'y a pas que nous qui nous posons des limites, parce que derrière, quand on écrit, il y a aussi tout un autre monde, il y a l'éditeur, il y a des limites qui peuvent arriver, évidemment. Par le métier lui-même, mais personnellement, je n'ai pas envie de m'imposer de limites.
Mais il n'y a rien d'autre à dire. Ils ont très bien parlé.
Alors je vais passer à la question suivante. Y a-t-il des contraintes ?
C'est toi qui as l'air. Je me suis fait avoir.
Tu viens chercher.
Mais carrément.
Bien du coup... oui, je pense qu'il y a davantage de limites à l'expression de l'imaginaire qu'à l'imaginaire en lui-même. Ce sont les limites imposées par l'écriture quand on écrit. Il m'arrive souvent d'être incapable de transcrire sur le papier les choses qu'il y a dans ma tête. C'est parfois terriblement frustrant, mais... Alors, il faudrait peut-être inventer sa propre langue, mais même là, ça serait pas possible. Il y a une incapacité parfois à traduire en mots les choses qui se passent en nous.
J'aime bien la notion de limite intérieure. S'il y a des contraintes, elles sont, je pense, effectivement plus dans l'expression. Ce moment où tu vas poser ce détail, il te manque de la technique. Alors, inventer sa propre langue, finalement, c'est encore un geste de créativité, d'imagination. Donc, finalement, ouais, c'est vraiment les outils qui nous contraignent plus qu'autre chose.
Parfois, c'est des contraintes qu'on s'impose à soi-même aussi.
Je ne sais pas si on les impose à soi-même, mais on a tous un public, évidemment, donc dès qu'on a choisi un peu un secteur, j'aime pas cette expression de public cible, mais malgré tout, oui, puisqu'on est dans un créneau. Donc c'est évident qu'on passe, c'est pas du tout de l'autocensure, mais on sait très bien en fonction de à qui on s'adresse qu'on ne peut pas non plus tout dire et on peut pas, il y a des limites qu'on ne peut pas déborder. Quoi. Donc, et ça, c'est pas forcément un choix personnel qu'on fait au départ.
Mais pour écrire, pour créer des mondes, etc., est-ce qu'on doit toujours réinventer, inventer de nouvelles choses? Est-ce qu'on doit inventer un monde de toutes pièces? Ou est-ce qu'au contraire, on peut utiliser ce que d'autres ont créé?
Moi, je pense qu'à... en tout cas, je parle de mon point de vue, celui que je connais le mieux. Un auteur, c'est un grand transformateur, en fait. C'est pas forcément quelqu'un qui invente tout à partir de rien, c'est quelqu'un qui va s'emparer de ce qui existe, ce qui peut exister ou ce qui pourrait exister, et qui va le transformer. Est-ce que Madame Rowling, avec son personnage de Dumbledore, est-ce qu'elle a inventé quelque chose? Non. Est-ce qu'elle a créé un personnage original? Oui. Mais si on cherche bien, ce monsieur Dumbledore ressemble étonnamment à Gandalf. Et ce monsieur Gandalf ressemble étonnamment à Merlin. Et ce monsieur Merlin ressemble étonnamment à la figure du dieu nordique de la magie et de la poésie, Odin. On peut remonter très loin, il n'empêche qu'à chaque fois, les personnages sortis de l'imaginaire et de l'imagination des légendes celtiques ou de Tolkien ou de Madame Rowling sont profondément originaux, mais ils ont fait du neuf avec du vieux.
Voilà. Donc en quelque sorte, les idées appartiennent à tout le monde.
Les idées sont à qui s'en empare et qui s'en empare les on donne notre propre forme. Non, je ne sais pas ce qu'on pense, les éminents.
Ouais. Je suis obligé d'être forcément totalement 100% d'accord avec toi, moins 100%. Non, de temps en temps, on crée réellement. Globalement, c'est à une virgule près, c'est un détail qui peut parfois aller très très loin, qui peut pousser, changer toute une histoire, changer surtout toute une façon qu'on a eue pendant, mettons, 20 siècles ou 25 siècles de raconter des histoires. Entre l'épopée de Gilgamesh, qui est à peu près le premier roman connu de l'humanité, qui est en plus un roman d'imaginaire, pour ne pas dire de science-fiction, d'ailleurs, on est entre le fantastique et la science-fiction. Et ce qu'on écrit aujourd'hui, il y a eu d'énormes évolutions, mais on a toujours parlé de l'humanité. À partir du moment où on parle de l'humanité, on parle de quelque chose qu'on connaît très très bien, qu'on sait mettre en scène, qu'on voit fonctionner, et nécessairement, on va tomber non pas dans des schémas culturels ou des schémas sociologiques, mais on va se retrouver enfermé dans les relations et les interactions qui existent entre les hommes et les hommes. Alors, on peut tricher un petit peu, quelques auteurs l'ont fait, ils sont peu nombreux, ce sont ceux qui se sont essayés à écrire de la science-fiction à l'état brut, c'est-à-dire où il n'y a pas un être humain dedans, il n'y a rien qui ressemble à quelque chose qu'on connaisse. Donc je pense à un bouquin de Al Clement, dont j'ai bouffé le titre, et en français et en anglais, mais ça, c'est pas grave.
Question de poids.
Question de poids en français, voilà. Qui est un ouvrage où l'humanité est quasi totalement absente du bouquin, et où on est plongé dans quelque chose qui est tellement étrange, qu'à part y trouver un intérêt intellectuel, littéraire, majeur, les 500 pages sont pas faciles à terminer quand même. Hein. C'est un petit peu comme si tout à coup je me mettais à écrire en martien pour m'adresser à vous. Il y aurait un petit problème, même si les idées sont claires dans ma tête. D'abord, il faudrait que j'invente le martien, ça va être un job, mais terrible. Et ça, c'est toujours loin. Et puis, derrière, vous n'allez pas vous y retrouver. Or, mon premier métier, en tant qu'auteur et d'auteur du imaginaire, c'est de me servir du vôtre. Je pars du principe que nous avons à peu près la même culture, que nous avons repéré et lu, enfin, que nous avons, oui, le même bagage culturel, que ce soit en termes de littérature, en termes de cinéma, en termes de séries télé, en termes même de musées, de muséologie, etc. Et je peux compter sur votre imaginaire pour combler les vides que je vais laisser volontairement, pour ne pas me fatiguer à décrire, j'ai horreur d'écrire. Donc, je ne décris pas les personnages, moi, très très peu. C'est très rare qu'on sache quelle est la couleur des yeux ou quelle est la couleur des cheveux du personnage. Je sais que de toute façon, si je vous les décris verts, vous allez les voir blonds ou noirs, ou n'importe quoi. Ça n'aura rien à voir avec le travail que j'ai fait au départ. Parce que ce que je mets en branle, ce que j'essaye de mettre en branle, c'est votre propre imaginaire, tenant compte du fait que nous avons un certain nombre de références communes. J'ai choisi d'être auteur pour éventuellement vous dire des choses sur le monde que vous ne connaissez pas forcément ou que vous connaissez autrement qu'à travers mon propre regard. Mais je compte sur vous pour faire 90% du job. Je suis un auteur fainéant.
Ah ben merci. Oui, non, je vais revenir plutôt sur le... Est-ce qu'on crée, est-ce qu'on ne crée pas? Bon, je reviens un peu sur ce qu'a dit Eric, c'est-à-dire... Même Tolkien reconnaissait que, bon, lui-même a puisé dans un fond mythologique très ancien, mais il disait que chaque auteur apporte ce que lui appelait la coloration, c'est-à-dire on va changer, il ne suffit pas de changer un personnage ou un décor, chaque auteur évidemment va reconstruire un univers, même si on est tous partis d'univers inspirés par les uns ou par les autres. Bon, après, dire qu'on crée, qu'on peut créer de toutes pièces, j'y crois un peu moins. Je crois qu'on puise dans un fond. Il y a même, si on écrit de la science-fiction, il y a même des théories physiques qui essaient de dire qu'on ne peut pas inventer. On sélectionne parmi des choses qui sont déjà existantes. Bon, à commencer par une langue. Une langue, elle est faite avec un nombre déjà défini de lettres qui vont donner un nombre défini de mots. Bon, Tolkien, lui, invente évidemment une langue. Pareil sur des racines existantes aussi. Il n'y a jamais partir du vide absolu, je ne crois pas que ce soit réalisable. Mais bon.
Oui, juste par rapport à ça, c'est très vrai. C'est-à-dire que même si on décrit, on raconte une histoire dans laquelle il n'y a pas d'humain, il y a rien du tout, on le fait malgré tout avec une langue humaine. On est tenu par des contraintes humaines. Je pensais à un exemple de livre qui a essayé de créer une langue pour transcrire le vent. Je pense à la Horde du contre-vent d'Alain Damasio qui a vraiment énormément travaillé sur les aspects justement linguistiques et de langue. Mais même là, il n'a quand même pas pris le risque de nous écrire son livre entièrement en langage du vent parce qu'il n'y aurait eu personne pour le lire et le comprendre. Donc, à un moment donné, on est obligé de revenir à des contraintes de base qui sont déjà simplement la langue qu'on utilise.
Comme tout genre, comme toute littérature, la science-fiction a ses clichés. Alors, qu'est-ce qu'on en fait? On les évite ou on en joue?
Ah! La réponse la plus simple, c'est forcément les deux. C'est pas des clichés, c'est aussi une culture qui s'est construite, qui remonte à la fin
des
du
19e. Des clichés, des mèmes, des tropes, des...
Qui revient depuis la fin du 19e siècle, qui s'est énormément développée dans les années 30 aux États-Unis et qui ensuite a réenvahi le monde, qui fait qu'aujourd'hui on a des raccourcis. On n'a pas besoin d'expliquer tout, comment fonctionne un appareil antigravifique, etc. D'autres l'ont fait avant nous, donc on part du principe que tout lecteur de science-fiction a déjà une base de connaissances fictives. Je rappelle que c'est science fictive, mais qui nous permet de gagner du temps. Donc on utilise des clichés, ce sont des gens qui ont fabriqué. Avant, il y a eu des types qui se sont cassés la tête à savoir comment ça allait fonctionner une soucoupe volante. Nous, on n'a plus besoin d'expliquer comment fonctionne une soucoupe volante. Par contre, on a besoin de faire très très attention et d'innover sur la façon dont on se sert d'une soucoupe volante. Pourquoi, comment, dans quelles conditions, etc. On pousse à chaque fois un petit peu plus loin. L'idéal, ce serait que de génération d'auteurs en génération d'auteurs, nous continuions à faire ce que font les scientifiques font, c'est à continuer à chercher, à développer et à mettre en scène des choses différentes. Ce n'est pas tout à fait le cas, d'abord parce qu'on n'a pas forcément le temps, parce qu'on n'a pas forcément le bagage culturel et scientifique qui nous permet de tout examiner à la loupe. Science-fiction, c'est fiction, c'est juste pour de rire. Science, c'est un mot qui est extrêmement gênant parce qu'il groupe toutes les sciences humaines et toutes les sciences dites humaines et toutes les sciences dites exactes. Il faudrait un bagage absolument phénoménal pour écrire un bouquin de soirée d'anticipation qui a 20 ans, je pense. Dans 20 ans, qu'est-ce qui va se passer? On n'en a aucune idée. Il faut savoir qu'aucun auteur de science-fiction n'avait prévu le téléphone portable. C'est hallucinant. On a prévu les voitures volantes qui, d'ailleurs, ne volent toujours pas. Et ça, il y a très longtemps, il y a un siècle et des cacahuètes. Mais le téléphone portable, ça nous est tombé dessus, ça a changé complètement, radicalement la façon dont nous communiquons avec les uns avec les autres. Tous les outils internet, tous les outils webétiques, il est joli webétique, hein, il est de moi, vous donnez le copyright à Yardage. Non, c'est pas ce que je voulais dire, mais c'est pas grave. Et donc, tous les, on appelle ça les réseaux sociaux ont modifié notre façon de nous comporter les uns avec les autres et d'avoir des relations avec nos proches, nos moins proches, ou des gens qu'on ne connaît pas du tout, à qui on n'oserait même pas adresser la parole dans la rue. Je veux dire, on baisserait la tête quand ils nous demandent l'heure, ou j'exagère un petit peu, hein, mais il y a un petit peu de ça. Par contre, par l'intermédiaire d'un mur Facebook, on se permet n'importe quoi. Ça, aucun auteur de SF ne l'a vu venir. Alors que ce sont les gens qui réfléchissent le plus sur le devenir de l'humanité dans une société qui se perfectionne technologiquement. Le mot perfectionner est un petit... Ah, on va l'utiliser par faire, mais pas par faire. Voilà. Et donc on ne sait pas. Donc c'est vraiment les deux. Il faut... on joue avec ça, on jongle avec ça. Et le type qui a des idées géniales, il s'appelle William Gibson, ça fait longtemps qu'on a l'habitude. Tous les 5 ans, il nous met à terre en nous sortant un truc qui, oh putain, l'appel le prophète, c'est pas un hasard, quoi. Parce que malheureusement, en plus, il y a des gens qui le prennent très très au sérieux quand il invente un truc. Et ils ont raison, ça marche.
Oui, c'est bon. Il y a un autre exemple qui me vient. Tu disais, on n'a pas pu venir, par exemple, une invention comme Facebook. Ou... Quand on prend, par exemple, l'histoire du cinéma, autant par exemple l'ordinateur a été inventé dans les années 40, à peu près, à partir de Turing. Pas très longtemps. On a un seul film qui prévoit un ordinateur un peu évolué, c'est 2001, l'Odyssée de l'espace. Sinon, jusqu'au milieu des années 80, alors qu'il n'y a aucun ordinateur, si vous voyez des films de science-fiction.
Dans le cinéma, dans la littérature.
Ce sont oui, mais on l'imagine toujours comme. Ce sont des écrans, on va dire, un peu vieillots. C'est personne n'a vu réellement venir la révolution informatique, même pas les spécialistes du secteur en question. Voilà, après dire. Est-ce qu'on fonctionne avec des clichés? Oui, essentiellement, c'est ce qu'on a dit. On est nourri de tout ce qu'on a lu, tout ce qu'on a vu, entendu. Donc, il y a toujours un moment où on va le régurgiter sous une forme ou une autre. Maintenant, est-ce qu'on peut inventer quelque chose hors cliché? Si on est un peu expérimental, je crois que oui. Par exemple, je vais parler d'une expérience personnelle, de ce que j'écris en ce moment. Je me suis interdit, par exemple, de connaître l'histoire. Interdiction de bâtir une autre âme qui aurait un début, un milieu, une fin, tel que, bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'information qu'on recherche, elle doit arriver en cours de route. Alors, ça ne veut pas dire qu'à la sortie, on n'aura pas un cliché. Mais essayer de faire une projection, si on veut faire de la science-fiction, en essayant de se projeter dans le futur, et recevoir une réponse du futur. Alors, ça fait trembler un éditeur, parce que, bien évidemment, il vous dit, de quoi parle ton histoire? Pouvoir dire, ben, je ne la connais pas encore, parce que pour éviter ces fameux clichés, j'ai pas bâti. Donc on peut essayer après à la sortie, je ne sais pas ce qu'on obtiendra. Mais...
Puisqu'on parle de l'imaginaire, tout à l'heure, c'est beaucoup de science-fiction, qui a ramené un peu ça aussi au niveau de la fantasy et comme genre. Plutôt que clichés, j'aime bien parler de code de genre ou de grammaire du genre.
Voilà, vas-y. Non, c'est bon, c'est exactement ça.
Et je reviens aussi sur l'idée de contrainte qu'on a évoquée tout à l'heure. Un auteur qui, par exemple, va écrire de la fantasy, sa principale contrainte va être liée à ses lecteurs. C'est-à-dire que ses lecteurs, s'ils ne retrouvent pas dans le livre de fantasy la grammaire qu'ils recherchent, les codes du genre qu'ils recherchent, va être au mieux déstabilisé, au pire déçu. Donc quand on s'inscrit dans un genre particulier, on est tenu par ces clichés, par ces codes de genre, et à ce moment-là, il faut les connaître, comme Picasso savait peindre, pour pouvoir déstructurer, et il faut connaître les codes du genre pour pouvoir jouer avec et pour pouvoir emmener le lecteur. Voilà, pour jouer avec le lecteur au milieu de tout ça. C'est un autre point de vue, mais...
Dans la création, il y a quelque part ce qu'on apprend et après ce qu'on désapprend.
Oui, moi, je ne vais pas avoir le mot de la fin, il ne faut pas exagérer non plus, mais voilà, je pense que les deux, effectivement, il y a forcément... ce qu'il faut éviter, c'est peut-être le cliché stylistique plus qu'autre chose. Après, tu vas sur du code... Et puis au final, ça devient ton code. Enfin, quand tu joues finalement avec ça, là on est dans la référence. Et là c'est carrément franchement plus rigolo. Et beaucoup plus rigolo aussi en particulier, évidemment. Là, tu te renvoies la balle. Et vous autres grands auteurs, vous faites ça constamment en plus que vous renvoyez la balle. Quoi. Oui, non, mais c'est ça. Enfin, bon, je ne vais pas revenir sur un comme association et j'habite mon mes gens, mais quand même, quoi. Voilà, donc ça rebondit et c'est ça qui fait un tissu, en fait, et qui fait qu'on arrive tous à se comprendre, et même, c'est un peu plus difficile, mais entre lecteur de scientifique, de SF pur et lecteur de fantasy pur, à la base, il y a quand même un truc, on va dire des trucs qui n'existent pas, et les gens vous regardent en vous disant, pourquoi tu dis des trucs comme ça, quoi ? Et parce qu'on a les mêmes codes référentiels à peu de choses près. Voilà. Ceux qui bricolent plus dans la science que dans les forêts ou avec des oreilles pointues, globalement, on a quand même en commun le fait que les gens nous regardent d'un air bizarre, souvent. Ça a vécu partagé ? Ouais, cool, merci.
Mais justement, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire et ce qu'a dit Ménéas. À quelle source vous abreuvez-vous ? Quelles sont vos références, vos recherches, qu'est-ce qui nourrit votre imaginaire ?
Mais non, mais c'est le quotidien, c'est le monde, c'est tout ce qu'on lit, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on apprend, toutes les interactions, les relations qu'on peut avoir les uns avec les autres. Il est évident qu'il y a un moteur quand on a envie de raconter une histoire, c'est qu'on a déjà une observation sur les autres, sur le monde. Et elle ne part pas de rien, elle naît soit d'envie très égocentrique, parce que je pense qu'on a tous écrit notre premier roman en pensant beaucoup à nous-mêmes, et en nous mettant en grande partie en scène, ne serait-ce que d'un point de vue fantasmatique. Et puis, petit à petit, ben, voilà, on regarde ça. Donc, l'imagination, le matériau, il est très clairement le monde dans lequel on vit. Et puis, après, la petite différence, c'est qu'est-ce qu'on a envie de restituer ? Est-ce qu'on a envie de le restituer tel qu'il est, simplement, de faire de la noire, ouais, grosso modo ? Est-ce qu'on a envie de le critiquer ? Est-ce qu'on a envie d'avoir des suggestions ? Est-ce qu'on a envie, à un moment donné, de mélanger tout ça et de dire, tiens, ici, on rêvait un grand coup cette fois ? On fait juste un peu qu'on rêve, là. Ça n'existe pas, ça n'existera jamais, on s'en fout. On va partir dans quelque chose de complètement hallucinant, puis on verra bien ce qui se passe. On verra bien ce qui se passe entre le lecteur et l'auteur. Le lecteur et l'auteur n'ayant jamais le même point de vue sur un bouquin. Très clairement, les bouquins que vous préférez de moi, c'est les plus mauvais, pour moi. Et ceux que je préfère, vous les avez tous détestés. Non, c'est un peu l'humour, mais on n'a pas de recul sur le travail qu'on fait. On a une technique, on a après un éditeur qui nous permet d'affiner un certain nombre de choses, dont l'une des premières fonctions est d'essayer de faire, en théorie parlant, de faire correspondre ce que nous avons à dire et la façon dont nous le disons pour toucher le public le plus large possible. Ce qui nous arrange, ne serait-ce que financièrement. Et au-delà de ça, c'est très agréable d'être lu et d'être compris. Donc, le monde, il est là, on essaye de le restituer, on le trafique, on le... parfois même éhontément, je veux dire, on peut aller loin dans le mensonge, dans la façon de parler des uns et des autres. Et pour moi, c'est ça, la matière.
Oui, la matière, c'est... Le... Oui, je ne reviens pas sur le fait qu'effectivement, tout ce qu'on peut faire, c'est parce qu'on a été nourri précédemment. Alors chacun après son domaine, certains, on est nourri de mythes, de mythologies diverses, on sait à partir de quoi on construit. Mais un auteur, c'est aussi quelque chose qui est en permanence, en construction, à mon sens. C'est-à-dire, oui, on s'impose, on a le style qu'on peut avoir, par exemple, au début, mais après, c'est vous, c'est le public, c'est les gens qu'on a en face, c'est les rencontres qu'on peut faire quand on intervient, par exemple, nous, en jeunesse, particulièrement dans un milieu scolaire. Et c'est chaque apport, en fait, qui construit et qui va jouer sur le bouquin suivant aussi. Je veux dire, on n'existe pas, il n'y a pas le mythe d'un auteur comme ça, qui aurait le génie infus. Et, donc, je pense que c'est une construction permanente, quoi. Et tout le monde a la même source, hein. Parler de Gilgamesh, je crois que depuis Gilgamesh, il y a une répétition des grands mythes. Ils changent de culture en culture, d'époque en époque, mais bon, on en est toujours au même point, quoi.
J'aimerais bien avoir un point de vue de la bibliothécaire, quand même, qui justement a un panel de lecteurs qui est très différent et qui a proposé un panel d'ouvrages très différent. Donc avec à chaque fois des apports et des regards qui sont pas monolithiques comme peuvent l'être les nôtres, même si on essaye d'être de se révolutionner nous-mêmes les uns les autres de temps en temps. Tu es confronté, toi, à une diversité à la fois en matière et dans la façon dont les gens le perçoivent.
Ça c'est rigolo. Enfin, je vais juste, avant de répondre vraiment, rappeler que d'après Jean-Luc, il l'a dit l'autre jour, d'après Jean-Luc Pizien, il y a deux livres. Il y a le livre que l'auteur a écrit et qui est publié, et puis il y a celui que le lecteur lit. C'est pas forcément le même. C'est toi qui l'as dit. Excuse-moi. Alors, il t'a cité. Voilà, il t'a cité. Et ça, on le voit effectivement en tant que bibliothécaire, donc j'ai mis un club de lecture qui est consacré uniquement aux cultures de l'imaginaire. Alors, je dis club de lecture parce qu'on ne se projette pas des films, même si on fait des fois des séances ciné ensemble. Mais on parle de films, on parle de jeux, on parle beaucoup de bouquins quand même. Ce qui est rigolo, c'est au niveau de la diversité des lecteurs, c'est que la plus jeune doit avoir 19 ans, le plus âgé a 63. Donc ça fait quand même, c'est assez large et c'est vraiment intéressant de croiser les regards sur un bouquin. Et puis les jeunes font découvrir des choses aux plus âgés et puis inversement. Et puis il y a, je ne l'ai pas vu aujourd'hui, mais je vois qu'il y a certains membres du club là, il y a Valérie D qui nous fait régulièrement, enfin les jeunes lisez vos classiques, quoi. Et donc il y a des confrontations comme ça qui sont rigolotes, mais tout ça se fait dans le plus grand respect. Et ça, c'est juste génial, quoi. Les lecteurs de SF essayent de comprendre ce qui inspire les autres dans la fantasy, inversement. De temps en temps, on arrive à croiser des trucs. Et alors là, tout le monde est d'accord en général pour l'Uchronie. Donc ça met tout le monde d'accord. Ça, c'est rigolo par contre. C'est que l'Uchronie met tout le monde d'accord finalement. Et tout le monde arrive à s'entendre là-dessus, c'est sympa. Voilà. Au niveau de la BD, il y a des affrontements parfois féroces, et au niveau des adaptations, je vous dis pas, la bataille du Hobbit n'est pas terminée chez moi. Enfin, c'est simple, j'étais obligée d'interdire le sujet, parce que sinon on ne parle plus rien, c'est infernal. Quoi. Voilà, il y a les pour, les contre, moi je ne me donnerais même pas mon avis si je prends une main. Voilà, et ils sont, voilà, mais c'est ce brassage-là qui est riche chez nous, et c'est pour ça qu'on a besoin de vous. Voilà. je vais ajouter que beaucoup d'entre eux ont débarqué en disant, bah, pour les, ceux qui aiment, préfèrent la fantasy, en disant d'abord Gamel et Tolkien, évidemment. Et puis, que ceux qui lisaient la SF arrivaient avec les auteurs américains, mais parce qu'une mauvaise connaissance des auteurs français. C'est peut-être là qu'il va falloir se battre plus sérieusement chez les, parmi les bibliothécaires, parce qu'on achète ce qu'on nous propose, quand on ne s'y connaît pas trop en SF, on achète prioritairement ce qu'on nous propose en librairie, des grandes collections, parce qu'on sait aussi que ça va sortir, plutôt que de stocker des bouquins qui ne sortiront pas. Et il faut vraiment qu'on apprenne à faire connaître nos auteurs français. Je fais un mea culpa rapide, puis après je te repasse la main. Mais je suis partie quelques années au Québec, et à l'époque, je disais, il n'y a pas de bons auteurs de fantasy en France. Je reviens 6 ans plus tard, et j'avais pas vu ce qui s'était passé. Entre-temps, Brajlon était né, entre-temps, il y avait des auteurs qui étaient nés. J'ai eu des conversations fascinantes avec Justine Niogré et Olivier Perreux sur le sujet. Vous sortez d'où, quoi, moi, je ne vous ai pas vu arriver. Voilà. Et puis, il y avait Ange, évidemment. Pour Ayesha, c'est le premier qui m'a fait. Je me suis dit, ils sont tous ces gens-là, ils étaient où? Et en fait, j'ai réalisé que c'est les gens de ma génération, ou un peu plus jeunes, pas mal plus jeunes pour Justine. Et voilà, en fait, on a grandi en même temps. Je suis super, super contente de pouvoir vous lire, quoi, tous. Voilà, ça a changé, les choses ont changé.
Merci. On pourrait dire que l'imaginaire est aussi un langage et un regard. Mais un langage qui parle de quoi et un regard sur quoi.
Moi, je vais partir à l'envers. Hein. Je vais partir d'une absence de regard, mais je crois qu'il y a d'abord un regard posé sur le monde tel que nous le vivons. Il y a un petit consensus qui consiste à voir que ce monde est assez, selon comment on le prend, c'est un monde assez horrible. Pourquoi on a besoin autant d'imaginaires de merveilleux? C'est d'abord pour une évasion, c'est pour essayer de sortir d'un quotidien qui est souvent oppressant, pour le moins. Bon, donc c'est plutôt une absence de... une mise à distance, je crois qu'on a besoin de se mettre à distance d'un monde un peu trop difficile. Alors évidemment, la tentation de créer un univers dans lequel, enfin, je sais pas, moi je fais des êtres de lumière parce que j'en rêve, parce que j'aimerais que tous les êtres soient des êtres lumineux et qui aient une légèreté, bon, mais voilà. Ça n'existe pas, on les invente, après à partir de là j'espère qu'on les partage, mais il me semble que c'est toujours d'abord un refus un peu de se laisser écraser par une réalité dans laquelle on aurait peu de chance aussi.
Alors moi je vais reprendre un petit peu ce que j'ai dit à partir d'où je suis parti lors de la dernière table ronde, puisqu'on est dans le sujet de philo. Je vais commencer par une citation. C'est Jack Sparrow et le capitaine Barbossa dans Pirates des Caraïbes, le troisième volet, quand ils sont côte à côte devant cette plage sur laquelle est échoué le Kraken, qui est mort, et Barbossa qui dit le monde change, il se rétrécit. Et Sparrow répond, non, le monde est exactement le même, il est juste moins attrayant. Et moi, c'est ce que, personnellement, ce que j'essaye de faire, c'est de ramener les Kraken à la vie, c'est de ramener à la vie tout ce qui rend le monde attrayant, tout ce qui le rend fantastique.
Voilà. Là, tu viens de me faire penser à l'histoire sans fin. Ce monstre qui dévore la terre imaginaire, le monstre de la réalité. Ouais, c'est ça.
Donc, dès qu'on se met à citer les auteurs, hein, tout de suite, ça sèche le public.
Comme disait Bertolt Brecht. Dans Star Wars. Toute la littérature de l'imaginaire, tout le roman, en fait, est né d'un besoin d'évasion. Il est né du roman d'aventure, d'une façon générale, parce qu'il y a eu une période où certaines personnes voyageaient pour des raisons parfois obligatoires, c'est-à-dire professionnellement, il fallait bouffer, donc on devenait marin et on faisait le tour du monde. Et puis après, il y a eu une période où le monde, on le connaissait un petit peu mieux, mais on devenait pionnier et on allait construire quelque chose. Et on a occupé tout l'espace, la planète, il n'y a plus grand-chose où on puisse se réfugier réellement et dire « putain, je vais découvrir quelque chose que personne n'a jamais vu ». C'est possible, quand on est entomologue, par exemple, de tomber sur une espèce que personne n'a jamais rencontrée. Mais c'est de l'ordre du miracle. Donc, en plus, on a des médias extrêmement rapides aujourd'hui qui font qu'on est au courant de ce qui se passe partout, si on veut bien s'informer, je précise, et non pas se laisser informer. Mais voyager n'est plus une aventure. Donc petit à petit, les littératures d'imaginaire, que ce soit celles qui datent un petit peu, c'est-à-dire qui remontent aux contes et légendes mythologiques, ou celles plus récentes qui sont nées avec la science-fiction, et avec la science-fiction au sens large, hein, j'inclus beaucoup de choses dedans, ont pris le relais du roman d'aventure qui était là pour pallier au déficit des gens qui n'avaient pas la chance d'aller pouvoir découvrir le monde. Comme on connaît le monde par cœur, maintenant il faut qu'on en invente d'autres, il faut qu'on apporte à la fois une part de rêve, une part de réflexion, et surtout une part de « je vais vivre autre chose ». Je vais m'enfermer pendant 500 pages ou 600 pages dans un bouquin, voire 50 pages, c'est des bouquins plus courts. Non, si c'est vrai, j'en connais. J'ai des noms. Mais être complètement sortir de ma vie, sortir de ce qui fait que ma vie n'aura aucune chance de changer un jour. Parce que la pire inquiétude de l'humanité aujourd'hui, c'est de se retrouver à mon âge dans telle situation et d'être 40 ans plus tard toujours dans la même situation. Et je crois que cette peur de l'ennui qui nous occupe tous inconsciemment, est occupée inconsciemment, il y a des moments où je me mettrai des claques chez hauteur, hein. Je vous rappelle, je ne parle pas, moi, c'est un métier. Mais
je vais comprendre.
Ah, tu vas comprendre ce que je suis en train de dire. Voilà. Cette peur fait qu'on a besoin de plein de choses. Et curieusement, la science-fiction a eu je dis la science-fiction, je vais expliquer après d'autres choses. Donc la science-fiction a eu un regain d'intérêt auprès du public, un intérêt très fort au moment où le monde allait très mal, où on avait peur de la Troisième Guerre mondiale, de la guerre nucléaire, de la disparition de l'humanité, etc. Et ce ne sont pas, même s'il y a eu beaucoup d'auteurs qui ont donné dans l'apocalyptique, mais ce ne sont pas les bouquins apocalyptiques qui ont été le plus vendus, ni qui ont été le plus connus, ni qui ont développé le genre. La fantasy, qui a explosé en Europe, parce qu'aux États-Unis elle avait déjà explosé un petit peu avant, mais en Europe, elle explose dans les années 90, et dans les années 2000, alors là, on prend une dimension extrêmement importante, elle naît du fait qu'on ne croit même plus en la science, ni en la possibilité de croire au sens... c'est l'inverse de penser, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Hein, c'est à l'église qu'on croit, c'est à l'école on pense. Voilà. Et ne plus voir de possibilité de chemin a permis, en retrouvant des mythologies anciennes, en les mettant en scène et surtout en extrayant totalement le lecteur, l'être humain, de son contexte quotidien, c'est-à-dire qu'il n'y a même plus d'ordinateur, on est parti complètement ailleurs. C'est un anxiolytique qui fonctionne très très bien. Et globalement, toutes les littératures d'aventure depuis qu'elles existent, c'est-à-dire tout le roman, sont des anxiolytiques. Ils permettent à des gens de poursuivre une vie jusqu'au bout en l'acceptant telle qu'elle est. Ils permettent à des gens de temps en temps de dire « Ah non, j'ai vu ça, et ben du coup je vais le faire. » Et voilà, c'est cet outil-là. Je sais, c'est pas très enthousiasmant, je vends les cordes à la sortie. Mais il n'empêche qu'on reste très nombreux, et plus on prend de la bouteille en écrivant, plus on a envie de bousculer tout ça. Alors, c'est vrai qu'on n'inventera jamais rien, on l'a déjà dit 36 fois, les trucs ont déjà été, l'humanité, on parlera que d'elle. Mais on fait de plus en plus de tests rigolos dans nos façons de bosser, pour ne serait-ce que pour nous bousculer nous-mêmes, parce que sinon on a tendance à tourner un peu en rond et à s'ennuyer, et puis surtout essayer de vous emporter parfois dans des trucs complètement improbables. Ça va rien dire, mais vous faites avec.
J'avais une idée, j'ai peur qu'elle soit repartie. Il y en avait plusieurs qui se sont croisés en vous écoutant. c'est un langage qui parle de quoi? Bah, ça parle de nous. C'est aussi bête que ça, quoi. Voilà. C'est, à part ce que tu citais tout à l'heure, que ce soit, quel que soit le genre, ça parle quand même de l'humain, de ses réactions à une situation donnée, du chemin qu'il a à faire. Alors ça, Eric, voilà quoi. On en parle. On développe des schémas qu'on espère, vous développez des schémas, mais vous pensez peut-être, j'ai perdu le fil, vraiment, je suis désolée, je suis très fatiguée. Je dis plus des...
Je me suis arrêté à la fantaisie après la science-fiction, j'ai commencé par l'aventure. Il ne faut pas oublier qu'entre temps, il y a eu tous les genres qui sont nés ce que les Américains appellent mystery, grosso modo, donc le polar, le thriller, l'espionnage, etc. Et que nous avons depuis Buffy et les vampires, puisque ça a été le premier phénomène mondial, des genres littéraires qui sont apparus, qui sont très récents, qui sont fugaces. On le voit bien, ils ont une espérance de vie qui est très très courte, mais dans laquelle on peut à la fois mélanger les conditions réelles, quand on fait de l'urban fantasy, on est à la fois totalement dans le réel et totalement dans l'imaginaire. Et en mélangeant les deux, c'est extrêmement pratique parce qu'à la fois on emporte le lecteur ou le spectateur, suivant le média, et puis on le maintient quand même aussi dans cette condition permanente. De toute façon, ta vie elle est comme ça, elle n'en bougera pas. Hein. Donc de temps en temps, il y a des anxiolytiques qu'il faudra interdire.
Alors maintenant, j'ai une question pour vous tous. Frédéric y répondra la dernière. Mais j'aimerais savoir, je vais passer dans les rangs et ceux qui veulent bien répondront. Qu'est-ce que vous offre? Qu'est-ce que vous apporte l'imaginaire?
Promis, je suis sage. Je peux sortir de mon rôle de modérateur. Je pense que parmi ceux qui me connaissent ici, mon intervention ne surprendra absolument personne. Et ce qui est marrant, c'est que tous ceux qui sont à cette table, mis à part Eric Lhomme, dont je connais le talent, me connaissent un tout petit peu, m'ont déjà croisé. Parce que pour répondre à la question, qu'est-ce que m'apporte l'imaginaire? Ça m'apporte déjà une opportunité peut-être de travailler plus tard. c'est déjà pas mal. À la base, je suis à l'université. Mais parfois, on croise des gens comme Frédéric Malosa, pour ne citer qu'elle, hein, qui vous donne la chance de vous exprimer un petit peu ailleurs, un petit peu dans ce genre de festival-là. Et bah, en fait, l'imaginaire, ça m'a permis de trouver ma place. Je suis totalement à ma place ici, et je suis totalement passionné. Et je suis complètement d'accord, en particulier avec Elgal, qui nous dit à quel point ça peut servir d'anxiolytique. Il y a des romans qui m'ont sauvé la vie, j'en suis absolument persuadé. Et je crois qu'il faut jamais baisser les bras et continuer toujours de faire en sorte de trouver notre place dans l'imaginaire. Du coup, voilà, j'ai pas fait plus long que ça.
Merci.
Non, mais c'est tous les jours, hein. Les hommes ne sont juste pas au courant, en fait.
Nous, on a 365 jours et les femmes, une seule.
C'est un peu déprimant comme description.
Non, il n'y a pas une journée de l'homme, donc je tiens à préciser aujourd'hui, journée de la femme.
Si, on a un homme.
Oui, voilà. Est-ce qu'il y a un jour Eric Lhomme, la question là.
On arrête de le coucher. Vas-y.
Mon Delphine, libraire, moi, l'imaginaire, ça m'apporte d'abord un salaire. Donc voilà, dans les choses claires. Voilà, enfin, c'est ce que j'aimerais bien. L'imaginaire en tant que cadeau, ça m'a apporté une identité, un monde et surtout une façon de voir. Parce que quand on est ado, on vous dit d'abord habille-toi comme ci, habille-toi comme ça, on vous dit ensuite étudie ci, étudie ça, la littérature c'est la merde et tu ferais mieux de faire S ou ES. Et puis un jour on croise un bouquin de Daniel Martin-Eagle, pour n'en citer qu'une, d'Eric Lhomme ensuite, d'ailleurs là c'est devenu beaucoup plus tard, qui vous dit et si tu regardais sur le côté du cadre plutôt que dans le cadre. Si tu te déplaçais pour changer de point de vue sur le tableau. Et à partir de là, on se rend compte qu'il y a énormément de contraintes, comme on en a parlé tout à l'heure, mais qu'on peut jouer avec toutes ces contraintes, et que c'est pas parce qu'elles sont là
qu'elles sont là pour nous empêcher de faire. Elles sont présentes, elles nous contraignent, mais c'est pas pour autant qu'on nous enlève la marge de mouvement. Et l'imaginaire, ça apporte ça. Ça apporte ça, et ça apporte aussi, moi, au quotidien, en tant que libraire, du bonheur. De voir des gamins qui n'aiment pas lire, qui débarquent dans ma librairie et qui repartent avec un livre, des étoiles dans les yeux, en disant à leur mère, « S'il est bien, je veux revenir. » Et ça, c'est absolument fantastique. Parce que chaque livre parle de l'humanité, et chaque bouquin d'imaginaire parle de l'humanité d'une façon qui va, à un moment ou à un autre, parler à l'imaginaire de la personne qui va l'avoir en main. Tout le monde ne va pas aimer les mêmes bouquins, tout le monde ne va pas aimer les mêmes univers, mais à un moment, il va y avoir un consensus grâce à cette toute petite perle d'autre chose, d'anxiolytique ou de petit bonheur, qui d'un coup va faire mouche dans la tête de la personne et va lui permettre de voir le cadre autrement. Voilà ce que m'apporte l'imaginaire.
C'est bon, t'as fini, Lama, tu peux laisser parler.
Non.
Mais bon, alors moi, je suis pas du tout un littéraire comme les deux autres qui ont parlé avant. Je peux parler de manière beaucoup plus simple. En termes de littérature, moi, l'imaginaire, ce que ça m'a apporté, c'est déjà le goût de la lecture, tout simplement. J'aimais pas lire du tout avant, et j'ai vraiment pris goût à la lecture, comme peut-être pas mal dans cette salle, avec Harry Potter. Voilà, il faut bien commencer par quelque chose. Et après, j'ai découvert beaucoup d'autres auteurs, dont Eric Lom, qui maintenant se souvient de moi. Je l'ai tellement stalké pendant le week-end que maintenant il se souvient de moi. D'autres arriveront peut-être plus tard. Et c'est vrai que pour moi, du coup, j'arrive pas à lire d'autre chose que l'imaginaire, et notamment de la fantasy. J'ai encore du mal à lire de la SF, j'arrive pas à rentrer dedans, j'arrive pas à imaginer les choses. Mais ça me permet, comme Néas l'a dit, de m'évader pour un temps, de quitter ce monde très noir qu'on présente avec des guerres de partout, qu'on ne présente finalement que le mauvais côté du monde et de l'humanité, et l'imaginaire me permet d'être dans une autre bulle, de respirer d'autres choses, de vivre d'autres choses, voilà. Tout simplement.
Merci. Si.
Bonjour tout le monde, ça me fait très plaisir de revenir au Oisonnier pour la deuxième édition. Je ne vais pas reprendre ce qui a été dit, parce que donc, pour moi, l'imaginaire, c'est de l'évasion. C'est se dire que quand je traverse une porte, donc j'espère trouver une salle qui m'emporte, ou tomber sur une sorte de vortex, et c'est toujours, ça me permet en fait de garder espoir. C'est un espoir qui est assez très farfelu en fait, parce qu'on m'a toujours perçu en tant que quelqu'un qui sort du lot, qui est atypique depuis que je suis petite. Donc ça m'a permis de rentrer dans un groupe. Je salue Fred d'ailleurs pour le groupe de lecture génial. Et qui m'a permis de découvrir d'autres mondes. Enfin, il n'y a pas que Harry Potter, même si c'est la base pour moi. Et donc, ça m'a permis, donc c'est ça en fait, c'est créer son l'identité d'après ce que l'on a de magique en nous, ce qui rend en fait chaque lecteur, chaque auteur, chaque bouquin spécial. Et surtout aussi de, en fait, que les romans, tout ça, c'est pas que de la littérature pour de la littérature et pour des mots, mais c'est aussi de la littérature aussi pour réfléchir. Et ça, vraiment, c'est ce que je trouve en fait qui est très important, de découvrir en fait des façons de penser qui diffèrent des nôtres, de s'ouvrir aux autres. Et je vais juste parler une anecdote un peu spéciale. En fait, donc je suis en LEA en fait en deuxième année, anglais chinois. Et j'ai pris en option un cours de littérature, et je me suis dit, je vais m'éclater, ça va être génial. Et en fait, je tombe sur une prof qui est très scolaire, et en fait, qui fait de la littérature pour de la littérature. Donc, elle vient là et elle me récite ses commentaires de texte. Et à un moment, elle dit, oui, alors, si vous avez des questions. Donc moi, je lève la main et je dis oui, mais est-ce que c'est possible de parler un peu de la philosophie dans une conception autre? Elle dit, ah mais non, 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 en fait, ici, on est là pour faire de la littérature, pas pour y réfléchir dessus. Alors moi, je pars sur un débat un peu loin, bon, c'est ma vie avec des gros yeux, du coup, maintenant, je me tais en cours et j'essaie de passer dans la masse. Mais en tout cas, c'est ça en fait, c'est de l'évasion, c'est s'accepter en fait ce qu'il y a de bizarre en nous et en même temps de comprendre le monde et il n'y a personne qui diffère de nous. Voilà.
Et pas pour ça non plus. Hein. Pas assez. Bref, plus sérieusement, ce que tu viens de dire, Raja, c'est intéressant. Je vois.
Je voudrais vous faire
une réponse en trois points. Ça commence, ça sera en anglais. Enfin, les trois points en anglais commencent par F. Fun, freedom, family. Parce que franchement, c'est vachement une littérature d'imaginaire. Ouais, je sais pas. Voilà. Et à partir de là, nous, lecteurs qui travaillons à faire apprécier nos bouquins, de mon créneau quand même, on s'éclate comme des fous. J'ai à faire des bêtises avec ce que vous écrivez. Je veux dire, de faire des présentations de bouquins pour le club. On a avec cette histoire de ragondin géant, on a quand même un sacré délire, on s'est inspiré de plein de trucs. On s'amuse. Première chose. Freedom, oui, parce que j'ai été plutôt une fille très timide, puis c'est pas encore complètement passé. Ça va, là, je me sens bien, mais ce serait difficile de faire la même chose devant rangée d'amateurs de DJ. Voilà. Donc, ça m'a. Moi, je m'inspire beaucoup pour ma vie de ce que je lis. Donc, c'est puiser du courage, des fois, pour puiser dans des romans de fantasy. De trouver des points d'appui et puis de réfléchir. J'essaye de réfléchir un peu à ce que je lis et à ce qu'on trouve dedans. Donc, et ça m'a permis de devenir autre chose, d'accepter effectivement ce que je pouvais avoir différent des autres et d'être capable maintenant d'affirmer clairement, ouais, on a le droit de lire autre chose que de la Ligène. Je veux dire, voilà, j'en ouvre plus. D'abord, je n'ai pas le temps. Il faut que je choisisse. J'ai quand même privilégié mes lectures professionnelles. Elles sont vraiment rigolotes. Ça, c'est pas parce que c'est rigolo que c'est pas bon, c'est pas un boulot. Quoi. Ça permet, le fait d'essayer de porter la littérature de l'imaginaire, ça me donne une liberté bien plus grande, parce que je ne parle pas que pour moi, en fait. C'est-à-dire que, voilà, on disait tout à l'heure, vous avez tous eu ce moment, pourquoi tu dis ça? À quoi ça sert? En portant votre droit à lire ce que vous avez envie de dire, moi je me porte moi aussi. Et je me permets de dire en votre nom ce que je pense réellement pour moi. J'aurais du mal à le dire si je le disais que pour moi. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis la famille, on est parfois un peu différents, pas forcément bien. Nos références sont pas forcément bien acceptées par nos familles, mais on s'en construit une autre. Puis elle est là. Et puis, c'est vachement bien d'être avec vous. Pourquoi? Qu'est-ce que ça m'importe d'être avec vous?
Les origines lyriques vont se terminer et je vais me permettre de citer une fois de plus le Major Tom. L'imaginaire est votre espace de liberté. Et comme il l'a dit, le pouvoir de changer les choses et le pouvoir de vous changer vous-même, il est en vous et il ne dépend que de vous. Merci d'être venu et merci infiniment à Frédéric Malvezin de nous avoir organisé un week-end exceptionnel. Qui n'est pas lu, il pourrait aussi bien être blanc, un festival sans visiteurs, il n'existe pas. Et si vous ne nous aviez pas porté, on ne serait pas là.
C'est votre et si vous n'étiez pas venu, on ne serait pas là non plus. Merci.